affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour est consacrée à un sujet encore peu connu et exploré, celui des relations internationales et à la diplomatie au Moyen-Âge. Il est vrai que le sujet lui-même pose question. Pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, les relations internationales et la diplomatie supposent en effet l'existence de sujets de droit internationaux, d'une distinction entre les affaires intérieures et les affaires étrangères. Elle suppose peut-être même une certaine conscience de la notion d'affaires publiques. Autant dire que nous avons quelques difficultés à envisager l'existence des relations internationales en dehors, en l'absence de l'existence d'États-nations. Mais voilà, le réel s'impose, nous sommes bien obligés de reconnaître que bien avant l'émergence de cet État-nation, des relations internationales existaient. Les rois, les ducs, l'Église, l'ensemble des souverains et quelques autres entités qui existaient à cette époque, comme les églises ou des ordres militaires, nouaient bien des alliances, faisaient la guerre, concluaient des trêves, faisaient la paix, négociaient entre elles. On peut donc dire que l'ensemble de ceci faisait des relations internationales, un petit peu comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'accueillir dans notre studio Jean-Marie Meuglin. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université Paris-Sorbonne, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et vous avez récemment publié, conjointement avec votre collègue Stéphane Péquignot, une magistrale étude sur la diplomatie et les relations internationales au Moyen-Âge. Je l'ai dit dans mon introduction, évoquer les relations internationales, c'est se poser inévitablement la question des acteurs de celles-ci. Alors précisément, à cette époque, au Moyen-Âge, quels sont ces acteurs des relations internationales ?
Oui, vous avez fort bien formulé la question. Nous avons mis « relations internationales » entre guillemets, pour indiquer d'emblée aux lecteurs de ce livre que, oui, il s'agissait de relations internationales, mais qu'il ne fallait pas les comprendre au sens actuel, c'est-à-dire des relations entre États-nations, une logique qui suit les intérêts des États, des intérêts géopolitiques, des intérêts économiques, c'est cela, les relations internationales à notre époque. Mais au Moyen-Âge, sans que nous ayons les termes pour les qualifier, il existe des relations entre puissants, des rois, des princes, des ducs, des gens qui ont des territoires et qui, lorsqu'ils ont des relations avec leurs pairs, amis et ennemis, engagent aussi leur territoire dans ces relations. Donc ce sont des relations personnelles. Ce sont des relations d'homme à homme, et c'est fondamental pour définir ce type de relations que nous avons. Mais en même temps, d'une certaine manière, cela engage des relations entre territoires, entre pays, entre ce qui deviendra beaucoup plus tard des relations entre États-nations. Donc d'une certaine manière, on peut effectivement parler de relations internationales.
Dans votre ouvrage, vous parlez d'un ordre dynastico-territorial. De quoi s'agit-il et comment est-il né ? Cet ordre ne naît pas ex nihilo.
Alors, oui, ordre dynastico-territorial, c'est bon, nous traitons d'une très longue période. Hein, nous partons de la dislocation de l'Empire carolingien, de l'Empire de Charlemagne, cet empire immense qui s'étendait quasiment sur toute l'Europe. Nous allons jusque à la fin du Moyen-Âge, la fin du XVe siècle, le début du XVIe siècle. Et sur cette très longue période, on voit précisément des rois, des princes, des dynasties. Et à ces dynasties sont liés un territoire, un pays. Et on a un lien qui se crée, qui est considéré comme un lien providentiel que Dieu voulait entre une dynastie royale et princière et son territoire. Je prends un exemple concret, le royaume de France, eh bien, il y a un lien indissoluble. On considère que la dynastie des rois de France est une dynastie qui remonte à la nuit des temps, au moins à Clovis, qu'il y a eu des races de rois, mais que ces trois races de rois étaient apparentées, que c'est donc d'une certaine manière la même dynastie de rois qui se succède à la tête d'un pays, des habitants, un territoire, et donc il y a cet ordre dynastico-territorial. Les relations entre rois et princes sont des relations entre dynasties et les pays qui sont liés à ces dynasties.
Toutefois, au départ, le point de départ, c'est quand même cet empire carolingien, et il y a ce processus de quelque sorte de décomposition, qui n'est pas neutre si l'on étudie la relation internationale, puisque des choses qui étaient de l'ordre des affaires intérieures deviennent des affaires étrangères. Et un point intéressant et qui souligne la complexité de la question, certainement, où vous parlez d'un monde politique polycentré, avec une multitude d'acteurs dont les prérogatives se recouvrent. Donc quel est ce tableau ?
Oui, alors dans cet empire carolingien, bien à l'origine, on avait Charlemagne devenu empereur un peu par hasard. Enfin, on ne sait pas trop. Charlemagne, à la Noël 800, se retrouve couronné empereur. L'avait-il véritablement voulu ou est-ce le pape qui a pris l'initiative ? En tout cas, ce titre d'empereur, Charlemagne lui-même ne savait pas trop ce qu'il signifiait. Il signifiait un pouvoir supérieur à celui des rois. Il signifiait que Charlemagne réunissait sous son autorité toute une série de royaumes, de principautés qui avaient composé auparavant un ensemble assez hétéroclite. Et puis on a cette dislocation de l'empire de Charlemagne qui commence avec les fils de Louis le Pieux, le fameux traité de Verdun en 843. Ce sont d'abord les descendants, les héritiers des Carolingiens qui prennent le pouvoir dans de grandes régions, des royaumes, et c'est entre eux que, alors qu'ils faisaient partie à l'origine de la même famille, eh bien, des relations doivent s'établir, qui sont des relations conflictuelles, d'amitié, mais aussi de conflit. C'est ce long processus qui se réalise du 9e au 11e siècle, et puis à partir du 11e siècle, on peut considérer que les royaumes apparaissent tels qu'on les connaît pour la suite des siècles, royaume de France, royaume d'Allemagne, on peut dire que au XIe siècle, ils sont véritablement apparus, que l'empire, l'idée d'un empire unique a définitivement cessé d'exister, même s'il y a encore des empereurs romains, il y en aura encore longtemps, puisque jusqu'au début du XIXe siècle, il y aura ce Saint-Empire romain, devenu plus tard, à la fin du XVe, de la nation allemande, qui prétendait être tout de même l'héritier de l'Empire romain.
À travers votre exposé, on se rend compte, parce que si on se réfère à nos souvenirs d'écoliers, lorsqu'on parle de la dislocation de l'Empire carolingien, on a tendance généralement à mettre principalement en avant l'absence de loi salique, le fait que chaque domaine est divisé entre les fils. Dans votre exposé, on parle déjà des prémices de nation allemande, française. Est-ce que finalement, au-delà de cette imbrication et de cet ordre dynastico-territorial, le mot territorial n'a pas une forme d'importance ? Est-ce que déjà il n'y a pas des raisons structurelles, j'allais dire géopolitiques ou inscrites dans la géographie, qui expliquent pour une part ce morcellement ?
La géographie joue à coup sûr un rôle. J'hésiterais à dire qu'il y a un déterminisme qui vient de la géographie. Je crois qu'il y a des cohésions qui se créent. Alors, à l'origine, on a effectivement ce principe du partage. C'était ça qui était déterminant. Les Carolingiens l'avaient hérité de leurs prédécesseurs, l'idée que lorsque le souverain meurt, ses fils ont un droit égal à l'héritage et que l'on va partager le royaume. On maintiendra peut-être l'idée d'un royaume qui reste, mais on aura des sous-royaumes partagés entre les fils. Et puis ça, on peut le dater assez précisément, hein, dans le premier quart du Xe siècle, ça change. Dans le premier quart du Xe siècle, s'impose l'idée qu'un royaume ne se partage pas. Et par conséquent, c'est, si on est dans un système héréditaire, le fils aîné qui va hériter. Si on est dans un système électif, dans notre époque, on hésite encore entre l'élection et le système héréditaire, on combine les deux. À ce moment-là, il y aura élection, mais en tout cas, il faudra un souverain unique, c'est-à-dire que le pays existe. On ne peut plus le partager. Et à partir de ce moment-là, on a donc effectivement cet ordre des territoires qu'on ne peut pas dissocier, on le disait tout à l'heure, de l'ordre des dynasties, mais l'ordre des territoires, l'ordre des pays existe. Alors, il tient au niveau de l'aristocratie, hein, des liens qui se sont créés à l'intérieur de l'aristocratie ont certainement fait énormément pour créer cette cohésion.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est dans un système un petit peu mixte, parce qu'on est encore dans la conception qu'un souverain sont attachés des droits territoriaux, mais ce territoire sort d'une notion purement patrimoniale.
Absolument.
Il finit
absolument.
Par avoir une existence propre.
Absolument, oui.
Qui oblige.
Et beaucoup plus tard, on aura les états du royaume, c'est-à-dire tout de même la représentation, pas à notre sens moderne, mais tout de même une forme de représentation du pays qui se posera en face du prince. Et lorsque le prince déclarera « Moi, je veux mener ma politique dans mes relations avec les autres rois, les autres princes, j'ai besoin que l'on me soutienne financièrement, que l'on me fournisse des hommes et de l'argent », cette représentation du pays dira « Eh bien, il faut que nous donnions notre accord, que nous soyons consultés. Nous existons tout de même en tant que pays en face du prince. Ce n'est pas une relation qui est formalisée, mais véritablement, elle existe tout de même.
Alors, dans ce système, on a compris, il y avait un empereur, en résulte une série de royaumes. Il y a quand même un parmi d'autres qui continue à vouloir revendiquer le titre d'empereur. En même temps, les autres déclarent, si je ne me trompe pas, qu'ils souhaitent être empereurs en leur royaume. Tout cela fait qu'il est un petit peu difficile de définir quels sont les attributs, les droits, les devoirs réciproques des uns et des autres. Comment cela se met-il en place?
Oui.
De façon empirique ou...
Absolument. On a la théorie et la pratique. La théorie, c'est le concept de souveraineté que le droit romain permet tout à fait de définir. Le droit romain n'avait jamais été perdu en Occident. Il reprend véritablement force à partir de la fin du XIe siècle, lorsque l'on redécouvre en Occident la compilation de Justinien, de l'empereur byzantin du VIe siècle. Donc là, véritablement, le droit romain revient en force. Il va être enseigné dans les écoles et dans les universités. Et à partir du droit romain, on peut tout à fait définir un concept de souveraineté, celui qui est le souverain et les autres qui n'ont pas les mêmes droits et qui doivent... Il y a quelqu'un qui doit faire régner la paix et la justice en dernier ressort, et c'est celui qui dispose de la souveraineté. Mais dans la pratique, les choses sont infiniment plus compliquées. Là, chaque puissant... revendique une forme de souveraineté. Ça vaut à tous les niveaux. Ça vaut au niveau du roi et des empereurs. L'empereur, c'est pour nous l'empereur allemand, puisque c'est dans un territoire qui correspond à l'Allemagne. Mais lui se considère comme l'empereur romain, le successeur d'Auguste. Hein. On compte depuis Auguste les empereurs. Et d'une certaine manière, il aurait l'idée d'une souveraineté qui s'étendrait à l'ensemble de l'Empire romain, c'est-à-dire à l'ensemble du monde, car l'Empire romain était un empire universel, se voulait un empire universel, et les autres rois, le roi de France, déclare, eh bien, nous, nous sommes empereurs en notre royaume. Nous avons ces droits souverains qui reviennent de droit au princeps, à l'empereur, nous, nous les exerçons à l'intérieur de notre royaume. Quand l'empereur vient dans notre royaume, nous les recevons comme un ami, mais il ne peut pas exercer la souveraineté. Et on a la fameuse visite de l'empereur Charles IV en France, à Paris, qui va rendre visite à son neveu, le roi de France Charles V. Et Charles V fait très attention à ce que Charles IV ne puisse pas donner l'impression qu'il exerce un pouvoir d'empereur à l'intérieur du royaume de France.
Dans ce tableau général, il y a aussi d'autres acteurs avec lesquels il faut compter. On a parlé d'empire universel, on a parlé d'un empire universel sur les choses terrestres, l'empire romain germanique qui se veut l'héritier d'Auguste, mais il y a un autre empire universel en quelque sorte, l'empire qui doit régner sur les âmes, en l'occurrence l'Église, qui est un acteur à part entière des relations internationales. Comment se positionne-t-il? Il est en haut de l'édifice, à côté, acteur à part entière en tant que souverain.
Alors, le pape est un acteur très important des relations internationales. Il est un peu difficile de lui assigner sa place dans ce jeu des relations internationales. Car la position du pape repose sur la distinction qui devient très claire, très importante à partir de ce qu'on appelle la réforme grégorienne à la fin du XIe siècle, qui est la distinction entre le spirituel et le temporel. Le spirituel, c'est tout ce qui concerne le salut des hommes et des femmes dans l'au-delà. La religion, tout ce qui engage le salut dans l'au-delà. Le temporel, c'est la gestion de la vie quotidienne, faire régner la paix et la justice. L'idée, c'est que l'Église et le pape à la tête de l'Église a la responsabilité du spirituel, de guider les femmes et les hommes vers le salut éternel, et les rois et les princes ont la responsabilité de faire en sorte que leurs sujets vivent tranquillement, en paix, et que la justice règne. Le problème, c'est qu'on ne peut pas séparer si distinctement le spirituel et le temporel, et que le pape revendique au nom du spirituel un droit de contrôle sur l'action des pouvoirs temporels, que donc il s'ingère dans la vie des royaumes et des principautés, qu'il pose des normes en matière de mariage, par exemple. Or, les mariages, c'est absolument fondamental pour ces relations d'homme à homme que sont les relations internationales. Je donne ma fille à un autre roi, ça veut dire que ce roi est devenu mon ami et que nous allons avoir des relations d'amitié. C'est le pape qui définit les normes que doit respecter un mariage pour être légal. Donc, rien que par cela, il va être un acteur important des relations internationales. Donc, il est difficile de donner une place précise au pape. Normalement, si on regarde les relations internationales depuis notre époque, on ne voit pas de place pour un pouvoir spirituel dans ces relations internationales. Mais au Moyen-Âge, il faut modifier la perspective. Le rôle du pape est tout à fait considérable, avec bien des contestations. On pense à Philippe le Bel et Boniface VIII, bien sûr, mais il y aurait bien d'autres exemples que l'on pourrait donner de conflits, conflits entre, oui, bien sûr, les papes et les empereurs, qui jouent un rôle très important.
Oui, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, cette réforme grégorienne qui distingue le spirituel et le temporel n'est pas une concession de l'Église, mais une façon de reprendre la main, puisqu'auparavant, c'est plutôt l'empereur qui,
sous une forme théocratique. Dans la conception carolingienne du pouvoir, l'empereur est celui qui doit mener ses sujets vers le salut éternel. Il est assisté dans cette tâche, à ma droite, si je puis dire, par les évêques, à ma gauche, par les comtes et par les ducs. Et les évêques, il les nomme. Alors bon, faudrait apporter quelques nuances, hein, mais effectivement, dans la pratique, ils jouent un rôle très important pour leur nomination. C'est normal, puisque c'est lui qui est le responsable. Ça ne veut pas dire qu'il va nommer des incapables et des gens qui abuseront de leurs fonctions, mais il doit exercer cette responsabilité. Ça, c'est une conception, cette vieille conception carolingienne, précisée encore à l'époque ottonienne au Xe siècle, c'est une conception qui a vécu après la réforme grégorienne, qui entend séparer strictement le spirituel et le temporel, et dire que le spirituel est supérieur au temporel.
Vous avez utilisé tout à l'heure, en parlant des mariages, le terme d'amitié. Alors, j'ai découvert que c'était probablement la notion centrale des relations internationales dans ce cadre dynastico-territorial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut entendre par l'amitié ? Après tout, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, certains, on pense au juriste Carl Schmitt à l'époque moderne, définissaient la politique par la distinction entre amis et ennemis. C'est le cas dans le monde médiéval, mais c'est peut-être le cas d'ailleurs de toute éternité. Mais en l'occurrence, le terme d'amitié revêt quelque chose de spécifique.
Absolument, absolument. Le concept d'amitié, alors si j'emploie le mot latin, je parlerai d'amicitia. On a très longuement parlé latin au Moyen-Âge, hein, bien sûr. C'est un concept fondamental, c'est une notion fondamentale, et c'est en même temps, bien sûr, une notion très complexe, parce que cette idée d'amitié, il y a toute une série de traditions qui viennent converger. Il y a l'amicitia romaine, de l'époque romaine, qui est la relation que la République romaine entretenait avec un certain nombre d'autres puissances. C'était une relation qui était formalisée. En gros, ça voulait dire que les amis du peuple romain étaient les clients du peuple romain, qu'il y avait un pacte de non-agression, mais que ses amis devaient favoriser les buts de la République romaine. Donc il y a cette idée d'amitié au sens relations internationales comme nous pourrions le comprendre, mais il y a aussi l'idée qui est également romaine de l'amitié à la manière de Cicéron, la communion des âmes, l'ami avec lequel j'ai une relation personnelle forte, avec lequel je vais m'entretenir fréquemment, je vais échanger des gestes d'amour divers de différentes sortes. Ces deux aspects vont converger au Moyen-Âge, à notre époque où nous avons des relations personnelles. On garde l'idée de l'amitié pour gérer les relations entre États, entre puissants et leur territoire, et on y ajoute cette relation personnelle qui a été christianisée, bien sûr, par les pères de l'Église et bien d'autres par la suite, d'une relation personnelle forte qui doit unir deux hommes. Ce qui veut dire que lorsque l'on va conclure un traité avec un autre roi ou un autre prince, ce traité comportera toute une série de dispositions juridiques extrêmement précises, mais il faudra d'abord que l'on établisse cette relation d'amitié et d'amour qui passe par des gestes, les poignées de main, les accolades, les embrassades, les baisers que l'on échange, manger ensemble, ces rites de l'amitié et de l'amour qui sont fondamentaux pour établir une relation forte.
Oui, c'est-à-dire qu'à travers ce terme et ces différentes exceptions, sa polysémie, on voit les deux aspects présents tout au long de votre étude converger. On est à la fois dans quelque chose de juridique, d'étatique, de pré-étatique, mais aussi dans quelque chose qui est de l'ordre quand même du clanique, des émotions et des sentiments.
Oui, alors, bon, émotions et sentiments, ce sont des émotions et des sentiments affichés. Lorsque je rencontre un ami, je suis évidemment très content de le rencontrer, d'où ces gestes de joie qui accompagnent les rencontres. Dans la réalité, nous savons que très souvent, ces rois et ces princes se détestaient et que ces gestes sont fictif.
C'est un rituel.
Fictif pour nous, c'est un rituel, mais c'est un rituel qui engage. À partir du moment où j'ai échangé avec l'autre ces gestes de l'amitié, je dois m'y tenir. Si je ne le fais pas, je ne respecte pas ma parole, je suis...
Déshonoré.
Voilà, oui, ça va dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, je commets un acte grave, hein, qui est une perfidie.
Oui, c'est là que ça, c'est un point important, c'est qu'on pourrait être tenté d'y voir une sorte de théâtre sans conséquence, mais pas du tout, car l'ordre social entier repose sur ces notions-là.
Absolument, absolument.
Et comment le caractériser ? C'est-à-dire qu'on sent que c'est quand même une société de l'honneur, quoi. C'est pas,
oui.
Il y a une distinction, oui. Je ne sais pas si c'est le moment de l'évoquer, mais entre
ça
mentalité de la honte et de l'honneur.
La société, ça vaut pour ces relations d'homme à homme, qui sont la substance des relations internationales. L'honneur joue un rôle fondamental. C'est aussi cela qui nous écarte de notre époque. Les relations internationales, pour nous, sont... Même si, en réalité, les affaires d'honneur, on n'en parle pas, mais elles jouent probablement entre chefs d'État, eux aussi, un rôle. Elles ne devraient pas, mais dans les faits, il est tout à fait possible qu'elles jouent un rôle. Au Moyen-Âge, ce sont des affaires d'honneur, bien sûr, des enjeux matériels, politiques également. Mais si un autre prince, un autre roi vous offense, vous insulte, c'est très grave et ça peut entraîner tout à fait une guerre.
Écoutez, oui, peut-être même dans l'inconscient des peuples, lorsque dans telle ou telle période historique... l'attitude des autorités ou de la nation entière n'est pas celle qui était attendue, on en porte la trace longtemps. Il suffit de penser à l'étrange défaite de 40 et ce qui s'en est suivi. Est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, une forme de conception collective de l'honneur qui perdure ? Ça qui est intéressant, c'est en lisant votre livre, c'est qu'on se rend compte que c'est à la fois très éloigné, ça peut sembler extrêmement exotique. Et puis finalement, si on prend un petit peu de recul, si on veut bien prendre un petit peu le temps d'observer notre monde avec des yeux neufs, eh bien, on voit que beaucoup d'aspects, finalement, perdurent.
Oui, c'est vrai, ce sont des aspects que nous ne voyons plus parce que nous considérons que dans les relations internationales, les sentiments personnels ne doivent jouer absolument aucun rôle, qu'il n'y a que l'intérêt bien compris des peuples et de leurs représentants qui s'engagent en leur nom. Il y a maintenant l'idée que l'on doit conclure des accords équilibrés qui profitent à tout le monde, qui sont profitable pour les deux peuples et les deux pays qui concluent ces accords. Donc, aucun facteur personnel ne devrait jouer. Au Moyen-Âge, c'était l'inverse. Mais malgré tout, ce facteur personnel probablement joue encore un rôle, même si on ne le met pas en avant.
Oui, et puis dans le rituel, vous voyez, il est évident que l'entente nouée entre la France et l'Allemagne après-guerre, aujourd'hui, dans la période contemporaine, s'appuie aussi sur des rituels. Je pense à la poignée de main entre Kohl et Mitterrand devant le cimetière. C'est une façon de faire et de faire passer un message qui est... Alors, pas quelles étaient leurs relations personnelles, mais du même ordre que celles qu'on peut voir.
Ce qui a changé, si on peut dire, par rapport aux époques anciennes, c'est que quand le président de la République française, François Mitterrand, et le chancelier Helmut Kohl se rencontrent et échangent ces gestes forts, ce sont leurs pays, ce n'est pas la personne de Mitterrand et de Kohl, même s'il pouvait y avoir entre eux, c'est tout à fait possible, je crois que c'était le cas, une relation d'amitié, mais c'est leur pays qui échange ces gestes, alors qu'au Moyen-Âge, ce sont ces personnes qui, en tant que personnes, échangent ces gestes, et les pays doivent suivre. Si les princes sont amis, les pays doivent être amis. Donc là, évidemment, il y a quand même une différence qui n'est pas négligeable.
Mais ici encore, on sent que les choses sont toujours... C'est tout le charme et l'intérêt de l'ouvrage, c'est qu'on Vous suivez avec mesure et prudence le dosage entre ce qui est personnel et ce qui est déjà étatique. Et un des éléments qui m'a frappé, c'est lorsque ces princes se rencontrent, ce qui n'est qu'une des modalités des relations internationales. D'ailleurs, précisons-le, il faudra qu'on voit les autres ensuite, le mariage, l'échange des cadeaux.
Les ambassadeurs.
Déjà beaucoup plus modernes. Oui. Mais lorsqu'ils se rencontrent, ils sont accompagnés des grands du royaume. Et là, vous précisez bien qu'ils ne sont pas là simplement en tant que suzerains, mais qu'ils ont éventuellement leur mot à dire. Ils ne sont pas du tout comme une chambre d'enregistrement, le doigt sur la couture. Ils ont la possibilité de faire valoir aussi leurs intérêts. Et donc là également, on touche du doigt qu'au-delà des relations interpersonnelles, il y a déjà une communauté qui est derrière.
Oui, 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 effectivement, dans ces rencontres de rois et de princes, on voit que les rois ne sont pas seuls, mais qu'ils sont entourés par les grands de leur royaume et que la présence de ces grands signifie un assentiment. Un roi...
Mais ils ne sont pas obligés de venir.
Alors, cela, d'une certaine manière...
S'ils sont assez puissants, ils peuvent refuser.
Oui, on ne peut pas le dire
aussi brutalement.
En tout cas, s'ils sont là, c'est qu'ils donnent leur assentiment et qu'ils s'engagent eux aussi dans cette affaire. Et ça, c'est quand même très important. On a le cas le traité qui est passé entre le roi de France, Philippe le Bel, et le roi d'Allemagne, roi des Romains, on l'appelait le roi des Romains, Albert d'Autriche. C'est un traité qui est passé à la suite d'une rencontre des deux rois, comme il se devait dans la prairie de Vaucouleurs. Le roi des Romains, Albert, était en train de se brouiller avec de très puissants personnages de son royaume, que sont les archevêques rhénans, l'archevêque de Cologne, l'archevêque de Mayence, l'archevêque de Trèves, qui sont parmi les électeurs de l'empereur. Et signe de cette brouille, un texte, une chronique nous dit, la veille de la rencontre, les archevêques ont quitté le camp du roi. Ils ont manifesté ainsi, de façon ostensible, qu'ils refusaient d'approuver le traité que le roi des Romains passait avec le roi de France.
C'est un point important que celui-ci, c'est que chacun des gestes, à la fois personnels, mais aussi de ceux qui accompagnent et autres, a une signification bien précise. Tout cela pourrait sembler à un œil non averti, un petit peu improvisé, rocambolesque ou truculent, mais en réalité, le protocole est extrêmement précis. Il ne faut en aucun cas commettre des impairs. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce protocole, notamment qui rend visite à qui, à quel endroit, le choix du lieu, éventuellement de la date, pour nous permettre de visualiser un petit peu la complexité de la chose.
Tout le déroulement de ces rencontres, c'est quelque chose qui est extrêmement préparé à l'avance. Il n'y a pas a priori d'improvisation. Dans la pratique, il se peut tout à fait qu'il y ait eu, malgré tout, de temps en temps, des éléments improvisés qui intervenaient, mais l'improvisation doit être évitée. Et il y a des normes qui sont extrêmement claires et qui doivent être respectées. Il y a en particulier cette norme qui est que c'est l'inférieur qui doit venir à la rencontre trouver le supérieur. Par conséquent, un prince de rang, je prends l'exemple du roi de France, nous avons dans les années 1320 un duc d'Autriche qui vient rencontrer le roi de France pour une affaire extrêmement importante hein, qui intéresse les intérêts des deux. Ce duc d'Autriche vient dans le royaume de France, il franchit la frontière et il vient rencontrer le roi de France dans son royaume parce qu'il est l'inférieur. Le texte ne va pas nous le dire, mais
tout le monde le comprend.
Tout le monde le comprend. Et le roi de France, malgré tout, pour ne pas humilier celui qui vient le voir et avec lequel il entend bien conclure un accord profitable aux deux, va alors venir à sa rencontre. Il ne va pas le laisser arriver jusqu'à Paris, mais il va partir à la rencontre de l'autre pour montrer que il l'honore. L'inférieur s'est déplacé, mais le supérieur affecte de venir à sa rencontre. Si on se rencontre à cheval, le supérieur va faire mine de descendre de son cheval. L'inférieur, qui connaît les codes, va se précipiter et descendre avant. Donc pas d'humiliation. Cela paraît des gestes de politesse, mais si l'inférieur n'était pas descendu de son cheval, ça aurait été une muflerie et un geste grave, et probablement la rencontre aurait mal tourné.
Oui, vous citez le cas de la rencontre, je ne sais plus quel est le protagoniste.
Celui qui ne soulève pas son chapeau, qui ne soulève pas assez vite. C'est une rencontre, effectivement, entre Jean l'Aveugle et un autre prince. Et à ce moment-là, ça tourne très mal. La rencontre risque fort d'avorter immédiatement.
Toutefois, tout cela est ritualisé, mais aussi très rationnel, et tend à le devenir, semble-t-il, de plus en plus. C'est-à-dire qu'on sent comme une évolution quand même au fil de ce Moyen-Âge, de cette longue période, comme vous l'avez dit, notamment le cas de supérieurs qui n'hésitent pas à se rendre chez des interlocuteurs inférieurs, mais aussi une infrastructure croissante. Est-ce que vous pouvez nous... et bien plus moderne, en l'occurrence, vous parlez du rôle des ambassadeurs.
Alors oui, les ambassadeurs, c'est extrêmement important. Alors si je reviens tout de même un peu en arrière, parce qu'il y avait un élément que j'avais oublié de donner, qui est important, quand on a deux rois de rang égal... qui va aller, eh bien, on se rencontre sur la frontière. Et là, personne n'a donné le sentiment qu'il était inférieur. Donc on a énormément de rencontres sur la frontière parce que c'est le moyen de manifester que ces deux princes sont de rang égal. Les ambassadeurs, c'est très important. Les ambassadeurs sont les représentants du prince. Dans ce mode des relations internationales, qui est un mode de relations personnelles, il va de soi qu'évidemment, bon, l'idéal, quand on va s'engager de manière forte, il faut se rencontrer. Mais on ne peut pas se rencontrer en permanence. L'ambassadeur est celui qui représente la personne de son prince, qui se dépouille en quelque sorte de sa propre identité et qui devient... le roi lui-même. Alors, ce qui va se passer dans notre époque, c'est en quelque sorte, on pourrait parler d'invention de la diplomatie, c'est qu'il faut formaliser ce lien, ce lien de représentation, c'est-à-dire que, avec le développement de l'écrit, vont prendre forme toute une série de documents diplomatiques qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont continué leur carrière et sont très importants dans la diplomatie moderne et contemporaine. On va faire des lettres de créance. La lettre de créance, c'est la lettre que vous montrez quand vous arrivez chez un autre souverain et qui atteste que vous êtes le représentant de votre roi et que vous pouvez parler en son nom. Que quand vous parlez, ça n'est pas vous-même, mais c'est le roi qui parle par votre voix. On va développer... Ça se produit à partir du XIIIe siècle, hein, c'est quelque chose de neuf et de très important. Les pouvoirs. C'est ce qui définit ce pourquoi vous pouvez prendre des engagements. Et donc vous devez montrer vos pouvoirs à l'autre roi, à l'autre prince ou à ses représentants, parce que si l'on vous a, si ces pouvoirs vous autorisent à conclure un traité d'engagement financier ou autre chose, vous ne pouvez pas dépasser ce qui se trouve dans vos pouvoirs. Ça n'aurait aucune valeur. On va aussi avoir des instructions. Les instructions, c'est ce que le roi donne à son ambassadeur. Une sorte d'aide-mémoire pour lui, où le roi lui dit ce qu'il doit faire, jusqu'où il peut aller dans les concessions éventuelles qu'il fera, le mode d'emploi en quelque sorte. Ces instructions, en principe, doivent rester secrètes. On ne doit pas les montrer à l'autre partie, parce que ce serait abattre son jeu. Mais de temps en temps, si justement on veut montrer que l'autre est un ami, on pourra lui montrer les instructions. C'est la preuve que vraiment, on discute avec un ami et qu'il n'a aucun mauvais procédé à craindre. Il y a aussi les sauf-conduits, bien sûr, hein, qui jouent un rôle. Et puis, on va avoir des rapports d'ambassadeurs. On a toute une documentation diplomatique qui apparaît, qui se renforce à notre époque et qui va continuer dans les siècles ultérieurs. Mais les ambassadeurs de notre époque, les ambassadeurs du Moyen-Âge, sont... Très longtemps, on a considéré qu'il n'y avait pas d'ambassadeur au Moyen-Âge parce qu'on partait de l'idée qu'un ambassadeur devait être un ambassadeur résident, tel que nous les connaissons, installé à demeure, sur place. Alors qu'à notre époque, nous avons des ambassadeurs non professionnels. Le prince choisit parmi ses fidèles, clercs et laïcs,
pour une mission déterminée.
Un tel, pour une mission déterminée. On parle d'ambassadeur, d'ambassade ad hoc. Pour une mission déterminée, on mène cette mission, on rentre chez soi, on se fait rembourser les frais, on n'est pas payé, on se fait rembourser simplement les frais que l'on a eus pour ce déplacement et on reprend ses activités normales. À la fin du Moyen-Âge, en Italie d'abord, vers 1450, on a vu apparaître ce que l'on appelle des ambassadeurs résidents, c'est-à-dire des ambassadeurs qui sont installés à demeure. Dans l'historiographie traditionnelle, on a considéré que c'était la naissance de la diplomatie. Pas du tout. Cette diplomatie existait bien auparavant. Les ambassades ad hoc continuent bien longtemps après le milieu du XVe siècle. Et par ailleurs, ces ambassadeurs résidents, on les a mal compris. On les a compris de manière trop moderne. En réalité, ces ambassadeurs résidents, ils apparaissent dans une Italie qui est l'Italie de la paix entre les 5-6 grands pouvoirs qui se partageaient l'Italie dans la seconde moitié du XVe siècle. Et parce qu'on est en paix, on doit avoir, on devrait en quelque sorte être constamment ensemble à entretenir cette amitié. On envoie un ambassadeur qui est le représentant sur place qui manifeste cette amitié que l'on a. Donc c'est finalement, ça sort de l'ancienne diplomatie. Bon, cet ambassadeur en profite aussi pour espionner. au passage, regardez, ça jouera aussi un rôle, bien sûr, mais ça existait déjà auparavant. Les ambassadeurs avaient des yeux pour voir ce qui se passait dans le pays. Les ambassadeurs français, quand ils allaient en Angleterre pendant la guerre de 100 ans, essayaient de voir quel était le degré de préparation de l'armée anglaise. Et les Anglais avaient le souci de les empêcher de voir ce qu'ils préparaient.
Vous avez parlé du rôle plus important qu'on pouvait l'imaginer, de l'écrit, des archives, du nombre d'actes. Dans la question de la langue devait être importante aussi, à la fois dans le protocole.
Oui, la question de la langue est importante. Bon. Alors, on a au Moyen-Âge une langue internationale qui est le latin. Le latin, c'est la langue commune. C'est une langue que les laïcs, en général, ne parlent pas, mais... Les clercs ont non seulement un rôle spirituel, ils sont aussi au service des princes. Donc dans toute ambassade, il y a des clercs, des évêques ou d'autres clercs qui, eux, peuvent traduire et qui peuvent s'entretenir avec les clercs de l'autre côté dans cette langue internationale qu'est le latin. Pour les rois de France et les rois d'Angleterre jusqu'au XVe siècle parlaient français, la cour d'Angleterre parlait français, c'était un héritage des ducs de Normandie et des Plantagenets qui étaient devenus rois d'Angleterre, donc jusqu'au début du XVe siècle, on parle français, et puis à partir du début du XVe siècle, les Anglais commencent à trouver que parler français, ce serait un signe d'infériorité. Donc, ils exigent que l'on revienne à la langue commune qu'est le latin.
Je m'imaginais très naïvement que l'ensemble de ces actes, traités ou négociations se faisaient en latin, mais pas du tout. En fait, selon les cas, on pouvait choisir telle ou telle langue, avec là aussi un ordre de préséance très variable.
Oui. On a quand même cette importance
une prédominance du latin
qui va rester, parce que c'est la langue que... dans l'ensemble de l'Europe, où les langues d'abord mettent quand même bien du temps à à se définir, à acquérir une syntaxe, une orthographe précise, où chacun ne parle finalement que son dialecte et ne se comprend bien qu'avec les gens qui parlent le même dialecte. Le latin, c'est une langue qui a des règles stables que tout le monde connaît d'un bout à l'autre de l'Europe. Donc ça donnait quand même des facilités, comme l'anglais pour nous maintenant.
Désormais.
le latin donnait des facilités.
Et avec les autres aires géographiques et culturelles, je pense par exemple avec le monde musulman, comment
il faut des interprètes, il faut des traducteurs, on a des interprètes, hein, on a des gens qui sont, quand on négocie avec des puissances musulmanes, il y a d'importants accords commerciaux mais aussi politiques, parce que le commercial et le politique ne peuvent pas être séparés. À ce moment-là, on a des gens qui sont capables de faire le passage entre le latin et l'arabe et d'assurer, on aura une version du traité qui sera en arabe et une version du traité qui sera en latin, et on aura vérifié que c'est le même contenu dans l'un et l'autre. Là, il y a des interprètes, les interprètes jouent un rôle, hein, bien sûr, au Moyen-Âge. Tout particulièrement quand on doit négocier avec le monde extérieur. Alors c'est variable, si on est, là je prends l'exemple des relations avec les puissances musulmanes, si on est dans le nord-nord-est de l'Europe, on va avoir le bas-allemand, qui est la langue des villes de la Hanse, qui s'impose pour une bonne partie avec la Scandinavie, voire même des puissances baltes, russes, qui peut jouer un rôle de
collier
pour tous ces gens, parce qu'il y a des comptoirs de la Hanse un peu partout, et donc ça peut être une langue qui est commune, qui est comprise par tous. Mais les interprètes restent quand même une nécessité.
Vous avez parlé de la Hanse, ça nous conduit à parler d'un autre type d'acteur. Je suis désolé, on revient à notre problématique de départ, mais outre les souverains, peut-être faut-il parler justement d'organisations comme celle de la Hanse, des cités-états ou des ordres militaires. Comment s'insère-t-il dans cet ordre juridique international ? Quelle place leur...
Mais ce n'est pas facile de répondre à cette question. Ça fait partie de cette diversité des acteurs diplomatiques du Moyen-Âge. Pour nous, bon, quand on a des rois, c'est simple, on se dit, bon, ils sont souverains, ils ont le droit de mener une négociation, de mener des relations internationales. En réalité, tous ceux qui exercent un pouvoir mènent une négociation avec les autres pouvoirs. Ce pouvoir est un pouvoir qui peut être limité, mais c'est tout de même un pouvoir. Ça pose toute une série de problèmes. Les villes de la Hanse, la Hanse est une organisation qui regroupe d'abord des marchands, puis des villes. Ces villes ont des statuts très variables. On a des villes comme Lübeck, qui sont des villes d'empire, quasiment indépendantes et autonomes. Il y a des villes qui sont théoriquement sous la domination d'un prince territorial. Donc, on constate que le roi de France, le roi d'Angleterre, se demande comment négocier avec des gens comme ça, qui ne sont pas véritablement des pouvoirs reconnus. Mais il faut quand même négocier, la pratique l'impose, les relations commerciales sont importantes, donc on finit tout de même par trouver, non sans difficulté, une manière de mener une négociation. La Hanse fait partie, oui, de ces acteurs qui jouent un rôle, qui doivent s'insérer, de fait, dans le jeu des relations internationales, même si ça n'est pas forcément, ils n'ont pas une place assignée forcément. Mais encore une fois, les relations, ce que nous appelons les relations internationales, je rappelle les guillemets, ce sont ces relations entre des gens qui exercent un pouvoir et qui par conséquent ont des relations avec d'autres.
C'est très pragmatique en ça.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait.
Lorsque je vous écoute... On vient, comme souvent à propos du Moyen-Âge, à se demander s'il n'y a pas une forme d'extrême modernité dans leur façon de mener les affaires publiques et, même de les concevoir. Certes, il y a tout cet appareil un petit peu déconcertant de rituels qui peuvent paraître exotiques, en quelque sorte, à nos yeux aujourd'hui. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un grand nombre de points communs entre cette période et la nôtre aujourd'hui qui suit l'ère des États-nations en majesté. On peut lire dans tel ou tel journaux qu'on envisage certains pays envisagent, ou organisations internationales envisagent, de nouer des traités directement, par exemple, avec des entreprises comme les membres des célèbres GAFA, vous savez, ces grandes entreprises du numérique, et dont les budgets dépassent, de fait, et peut-être la puissance ou l'influence dépasse celle de un grand nombre d'États. Est-ce que finalement, en se penchant sur ces relations internationales médiévales, il n'y a pas une source d'inspiration pour relever ou gérer les défis qui sont ceux de notre temps, où on voit les États-nations contestés.
Alors, j'ai un peu de mal à répondre à votre question. Modernité du Moyen-Âge, je ne sais pas. Ce qui, en tout cas, est important, et vous avez tout à fait raison, c'est que ce nouveau regard que l'on donne sur maintenant depuis... nous avons fait un livre de synthèse, nous reprenons aussi quelques idées personnelles, bien sûr, mais nous reprenons très largement ce que, depuis une bonne vingtaine d'années, nos confrères historiens en France et ailleurs font. Ce nouveau regard sur les relations internationales du Moyen-Âge, qui ne les considère plus comme l'enfance... au sens d'enfant qui ne sait pas encore bien se comporter, des relations internationales modernes, mais qui montrent que c'est un monde, ce sont des relations internationales, mais qui ont leur propre logique, qu'il y a donc d'autres modèles possibles, qu'il n'y a pas une seule forme de relation internationale, celle des rapports entre États-nations, États-souverains, qui est la seule forme de relation internationale qui puisse exister. Et là, vous avez tout à fait raison de dire que oui, dans notre monde contemporain, eh bien, on doit le regarder aussi en se disant qu'après tout, cette forme des relations internationales entre États, nations, souverains est peut-être quelque chose qui est en train de s'effacer. Google est plus puissant que bon nombre d'États, peut-être même que notre France, et ce n'est pas un État, ce n'est pas un pouvoir souverain, mais il a des relations, comme c'est un pouvoir, il a forcément des relations avec d'autres et qui jouent un rôle très important. Donc oui, ce nouveau regard que nous portons sur le Moyen-Âge, on peut aussi le porter en sens inverse sur notre époque et se dire que il faut imaginer d'autres modèles pour comprendre ce qui se passe devant nos yeux.
Peut-être aussi celui des... On a parlé des cités-États. On voit qu'il y a un mouvement de métropolisation du monde avec des cités gigantesques et qui ont, elles aussi, des velléités d'agir internationalement, qui mènent de la diplomatie ou telle ou telle région.
Oui, bien sûr. On le voit bien devant nos yeux. L'État-nation est une forme politique qui n'a pas disparu, bien sûr.
Voilà.
Mais qui n'est plus aussi prégnante, qui n'a plus, comme vous dites, le monopole qu'elle avait auparavant.
Avec peut-être une dernière idée aussi, c'est que en théorie, dans cet ordre international reposant sur les États-nations, au moins en théorie et en droit, chacun est égal. Une relation entre égaux en droit.
Oui.
Dans ce monde médiéval, il n'y a pas réellement d'égalité en droit parce que les statuts
non,
ne sont pas les mêmes, au contraire.
Non, c'est même la relation, la rencontre qui va fixer le rang de chacun. Qui est l'inférieur, qui est le supérieur, c'est dans la relation que ce rang va être établi.
Ça ressemble un petit peu quand même à ce qui pourrait se mettre en place, non ?
Oui, c'est possible. C'est possible.
Un monde peut-être moins simple à décrypter, plus foisonnant, mais peut-être plus vrai aussi, car après tout, cette égalité entre États, c'est une fiction. Elle protège. Mais que lorsqu'on regarde l'histoire, non pas en juriste,
c'est une fiction à laquelle il faut tenir. Parce
elle protège.
Que, si on abandonne cette idée que les États sont égaux, à ce moment-là, on ne sait pas ce qui se produira. Donc,
on sait, le droit d'ingérence, par exemple.
Voilà, oui. Mais bon, enfin, puis y a aussi l'idée, bien sûr, hein, que les États ne sont pas les mêmes. L'idée de la démocratie, pour nous, nous avons l'idée de relations entre États. L'idée de démocratie doit quand même être prise en compte. Mais là, on s'éloigne beaucoup du Moyen-Âge.
On n'en était pas encore. Oui. En tout cas, nous retiendrons cette idée qu'il peut être utile de se plonger dans cet ouvrage, non seulement si on est passionné des relations internationales ou du Moyen-Âge lui-même. Donc, c'est un livre qui s'adresse bien évidemment aux gens qui aiment l'histoire, mais qu'elle offre un contrepoint, une vision en contre-champ qui est fort intéressante pour décrypter aussi les enjeux contemporains, comme souvent, et ça peut être un des rôles de l'histoire d'ailleurs, de montrer que finalement, on ne vit pas toujours dans un instant comme ça qui représenterait l'ensemble de la vie humaine, mais que les possibles sont beaucoup plus vastes, ils sont très nombreux dans le passé, et aussi bien sûr dans l'avenir.
Oui, je crois que c'est une bonne formulation pour le travail de l'historien. Et si Stéphane Péquignot et moi, nous avons réussi en cela, eh bien, nous en serions heureux.
Bien, monsieur, c'est le cas et c'est pourquoi je m'empresse de conseiller nos auditeurs de se plonger dans votre ouvrage. Il s'agit donc de « Diplomatie et relations internationales avec des guillemets au Moyen-Âge, du 9e au 15e siècle ». C'est aux Presses universitaires de France par Jean-Marie Meuglin que nous avions parmi nous et Stéphane Péquignot. Merci beaucoup, monsieur.
Merci. Thank you.